Évadez-vous dans les livres, rien de mieux pour oublier les soucis quotidiens et écoutez la section proposée par Christelle et Sylvain, libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Eric.
Et nous commençons avec vous Sylvain, gardez le micro.
Allez, écoutez, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman donc écrit par une autrice française, Stéphanie Hochet. Roman qui s'appelle Armure et qui est publié il y a quelques jours aux éditions Rivage. Alors, c'est un livre assez singulier et particulier parce que il réalise le tour de force d'être à la fois un récit historique et un témoignage familial d'autofiction, puisque c'est vraiment un témoignage sur sa propre famille. Historique parce que le livre, en fait, nous raconte le parcours de Jeanne d'Arc, alors qu'on connaît, mais elle revisite, le parcours de Jeanne d'Arc, donc depuis la révélation donc divine de sa mission divine pour libérer le royaume de France et aller proposer ses services au roi pour libérer la France donc durant la guerre de Cent Ans, la France occupée par les Anglais, jusqu'au bûcher. Donc on va suivre dans un récit qui est très bien écrit l'histoire, le parcours de Jeanne d'Arc, notamment aux côtés de Gilles de Rais, qui est un autre personnage que j'ai découvert, connaissait un petit peu dans l'histoire, mais là on découvre des aspects plutôt sombres de ce personnage, Gilles de Rais. Et puis, en parallèle, elle va nous raconter l'histoire de sa famille, parce que figurez-vous, et c'est là que toute l'originalité du livre se déploie, elle dresse un parallèle entre certains personnages de sa famille, notamment sa mère, sa propre mère et un oncle, et des personnages historiques qu'ont été Jeanne d'Arc et Gilles de Rais. Alors, c'est pas forcément à l'avantage des personnes de sa famille, elle s'en explique, mais c'est très intéressant puisqu'on a deux récits. J'ai trouvé ce livre étonnant, pour cette raison-là, passionnant, parce qu'on apprend plein de choses, et puis surtout, l'autrice écrit avec beaucoup, beaucoup de franchise. Elle décrit notamment son histoire familiale qui est difficile. Encore une fois, c'est quelque chose de très difficile. Elle le décrit sans phare, avec beaucoup de pertinence, beaucoup de justesse. Donc vraiment, moi, j'ai trouvé ce livre très intéressant que j'ai lu il y a quelques jours et que je voulais partager parce que vraiment, c'est pour moi un très gros coup de cœur pour un livre, alors bien sûr singulier, mais qui est, selon moi, à découvrir pour les raisons que j'ai évoquées, à la fois pour le récit historique et à la fois pour le récit familial qui est glaçant, mais en même temps éminemment intéressant et pertinent. Donc vraiment, je vous invite à découvrir ce livre qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Rivage, donc « Armure » de Stéphanie Hochet.
Merci Sylvain. Christelle.
Alors, mais moi, je vous emmène en Italie avec un très très grand roman, mais vraiment grand roman, j'insiste, qui est, je crois, le premier roman de cet auteur traduit en français. Donc ça s'appelle « Le Duc » de Matteo Melchior aux éditions Métayer. Alors, comme je le disais, vraiment un grand roman, de ces romans exigeants pour lesquels il est nécessaire de prendre un peu de temps pour se laisser emporter par une langue très riche, très dense et un cheminement de pensée parfois complexe. Alors, direction l'Italie, les Alpes, et le village perché de Valorgona. Alors, excusez-moi, je ne parle pas du tout l'italien. Valorgona, un village perché dans la montagne. Dans ce village vit celui que les villageois appellent le duc étant le dernier héritier des Cimamonte. Et le duc, qui est un homme encore jeune, vit seul et isolé dans cette villa. On imagine une magnifique maison, une magnifique villa au-dessus du village. Et il vit aussi dans son monde et notamment dans sa salle d'archives, dans laquelle il passe de longs moments à lire de vieux manuscrits, notamment des manuscrits sur l'histoire de sa famille, puisque c'est vraiment une de ces grandes familles de la noblesse. Alors cette vie presque monacale et plutôt studieuse va être totalement chamboulée par une révélation faite par celui qui s'occupe de ses bois. et je n'en dirai pas plus. Alors, comme je le disais, vraiment, grand roman, un roman même vertigineux, où il est question de cheminement intérieur, d'héritage choisi ou subi, d'histoire ancestrale, d'histoire de famille, d'histoire de village, mais aussi de nature, de montagne et de forêt. D'ailleurs, vous avez vu, Eric, que la première de couve est extrêmement réussie. D'ailleurs, ça pourrait tout à fait être un paysage de nos montagnes qui, exactement, qui ne sont pas loin. Alors, le village devient, dans ce roman, me semble-t-il, le symbole de tout ce qui peut nourrir la vie humaine, des passions comme des rancœurs, mais aussi du quotidien. Et là aussi, d'ailleurs, il y a une petite résonance avec d'autres romans dont on a parlé dans les semaines précédentes. Il y a aussi un bar où les habitants du village se retrouvent. Donc la symbolique du bar est également importante de l'autre côté des Alpes. Et alors, au travers le duc et de son introspection, c'est bien d'héritage dont il est question, mais dans son sens vraiment le plus étendu, c'est-à-dire pas uniquement matériel, mais dans la recherche de sa place, peut-être de sa bonne place par rapport à un passé et une famille, encore une fois, très riche d'histoire. Et puis, la forêt et la montagne, comme on le voit sur la couverture, sont là aussi, me semble-t-il, hein, des personnages vraiment à part entière du roman, puisque avec la transformation des paysages, la modification de l'écosystème, des villages qui se dépeuplent, eh bien, l'auteur réussit avec tous ces thèmes de nombreuses métaphores sur le lien entre la population et le monde végétal et peut-être notre impossibilité d'en prendre soin et d'y vivre. Voilà, donc vous voyez un roman vraiment, encore une fois, très dense, mais vraiment un très très grand roman et un auteur à découvrir et à suivre. Donc Matteo Melchior, Le Duc, aux éditions Métayer.
Merci Christelle, nous allons vous retrouver dans un instant pour des propositions de lecture pour les jeunes, c'est bien cela.
C'est ça.
Sylvain, il n'y a pas que Libération qui aime, vous aussi vous avez aimé ce livre.
Tout à fait, tout à fait. Vous avez vu la couverture, effectivement c'est un livre qui vient de paraître en poche, il était paru aux éditions du Sous-Sol il y a à peu près un an, et là il vient de paraître dans la collection Point, en poche, un livre de l'autrice mexicaine Dalia de la Cerda qui s'appelle Chienne de garde. Alors c'est un livre absolument coup de poing. Je vais vous citer déjà ce qu'elle dit au départ de son livre. « Le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes. Le Mexique est un désert fait de poudre et d'os. Le Mexique est un cimetière de croix roses. Le Mexique est un pays qui déteste les femmes. » Et en fait, à travers 13 histoires et destins de femmes dans le Mexique contemporain, le Mexique d'aujourd'hui, c'est ce que va démontrer cette jeune autrice, que ce soit, alors au fil de chapitres différents, on découvre à la fois une fille de narcotrafiquant, une garde du corps, une prostituée ou une fille de bonne famille, différents personnages, différentes trajectoires, des destins. Des trajectoires et des vies différentes, mais un destin commun qui est le danger et la violence, et notamment le fait d'être menacée par la violence des hommes au Mexique, qu'elle présente comme une société excessivement violente. Alors, clairement, ce livre, c'est un coup de poing, c'est un cri, c'est, quand vous le lisez, c'est un véritable choc, hein, où il y a vraiment des passages que vous lisez quasiment en apnée parce que ça décrit une réalité sociale et humaine extrêmement difficile. Mais j'allais dire, pour un premier roman, quelle entrée en littérature ? C'est vraiment un livre qui va vous faire sentir au plus près la psychologie de ces femmes, ce qu'elles vont sentir, et c'est surtout très fort dans la démonstration, c'est que quel que soit leur milieu de vie, une fille d'un homme politique de premier plan va sentir une menace, certes différente, comme une femme de ménage dans la banlieue de Mexico. Bref, vous l'avez compris, c'est vraiment un livre que moi j'ai beaucoup aimé et je serais tenté de vous dire ne passez pas à côté de cette nouvelle voie parce que c'est un premier roman. Alors, si on a quelques minutes, oui. J'aimerais vous lire parce qu'il faut lire le ton d'Alia de la Cerda. Là, c'est le début d'un chapitre. Alors, très rapidement, vous allez le comprendre au fil des pages. Je vais vous lire juste une page. Elle décrit en fait une jeune femme qui est Juliana et qui est fille d'un très très gros narco-trafiquant. Ce qui commence en fanfare finit en fanfare. C'est ma phrase préférée parce qu'elle résume bien ma philosophie de vie, mon pote. Mais bon, t'es pas là pour que je te balance mes proverbes, t'es là pour que je te raconte ce qui m'a mené ici, alors c'est parti. Tout a commencé avec Regina. Je l'ai rencontrée à l'école, à Guadalajara, on allait dans la même, à El Sagado. Mon père, par mesure de protection, nous avait envoyés là, moi et mes frères, dans la Perla Tapatia. Ma mère était venue avec nous. Notre maison se trouvait dans un joli quartier chic, mais super loin de la ville à proprement parler, du côté de la route pour Zapopan. Regina vivait dans le quartier d'à côté, on était presque voisines. Je n'ai jamais eu d'amis. J'ai passé mon enfance loin de la ville. Mon père s'occupait de son business, dans la montagne, et nous, on habitait dans le petit village à côté. Une communauté de 3500 habitants, avec des rues pavées et des maisons en briques. C'est mon daron qui a construit la maternelle, l'école primaire, le collège. Il a aussi financé le centre de santé, rénové la place, installé l'électricité. C'est pour ça que les gens l'aimaient bien et le protègent des militaires. Voilà. Tout est dit. Elle va vous faire... Elle vous plonge véritablement à travers quelques portraits de femmes dans le Mexique contemporain, Mexique rongé par la violence et le trafic de drogue. C'est vraiment très, très, très fort. Voilà, donc je vous rappelle le titre, « Chienne de garde » de Dalia de la Cerda aux éditions Point, c'est Point Poche.
Merci Sylvain et Christelle. Nous allons parler à présent, nous adresser plutôt à la jeunesse.
Alors oui, on change là, on change d'horizon, on change de programme. Et voilà, moi je vais faire un focus, juste un petit focus, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, sur le festival Vitamine L, vous savez, le festival de littérature jeunesse qui se tient cette semaine à Saint-Gaudens, dans différents lieux culturels de la ville. Donc moi, je vais juste vous parler en fait de quelques 2-3 albums, dont Anouki de Sénégas et Mopomé. Donc Anouki, c'est une BD, une première BD, hein, parce que c'est destiné aux enfants à partir de 4 ans. Plusieurs volumes hein, d'Anouki. Et Anouki, eh bien, c'est l'histoire d'un petit Indien qu'on va suivre dans de multiples aventures. Voilà. Et c'est, moi, j'aime beaucoup les dessins, très, très expressifs. Et puis, c'est vrai que chaque album a un thème particulier. Hein. Donc, c'est vrai que cela peut aider aussi au choix de l'album, mais vraiment toute la collection est à découvrir et à lire voilà, avec vraiment les plus jeunes lecteurs. Ensuite, autre BD et autre série, alors là pour un petit peu plus grand, on va dire à partir de 10 ans, c'est le cycle des super. Hein, c'est en deux cycles, avec encore une fois plusieurs albums. Et alors l'histoire de Frédéric Mopomé pardon, et David, hein, aux éditions de La Gouttière, comme Anouki d'ailleurs, les super, eh bien, ce sont trois enfants, c'est l'histoire donc de trois enfants qui viennent d'une autre planète et qui sont abandonnés sur Terre par leurs parents. Alors, les super, comme le nom l'indique, en fait, ils sont dotés de super pouvoirs. Donc, c'est vrai que la vie sur Terre va être un petit peu particulière et on va les suivre hein, au fil de ces deux cycles. Eh bien, on va les suivre dans la vie quotidienne d'adolescents au collège. Voilà, donc là aussi, c'est vraiment une série à découvrir pour les plus jeunes. Les vacances approchant et surtout les auteurs, je le rappelle, seront présents toute la journée de samedi à la médiathèque, devant l'auditorium. Hein. C'est une belle occasion de rencontrer les auteurs, de faire dédicacer son album ou sa BD préférée. Et puis, Eric, je vais terminer avec Malika Doré, alors qui a de nombreux albums, hein, notamment à l'école des loisirs ou aux éditions Mémo. Mais en cette période un petit peu troublée, eh bien, on va terminer avec Malika Doré et un bisou pour tout le monde.
Merci Christelle. Un mot sur les animations ici à la librairie indépendante à Saint-Gaudens.
Oui, alors, dans un premier temps, effectivement, il y a tous les événements autour de Vitamine L. La librairie indépendante, nous serons présents au musée ce vendredi à 18h30. Hein, on en avait parlé la semaine dernière. Et puis, surtout, demain, toute la journée de 10h à 17h.
Demain, samedi, je précise pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent le vendredi, parce que l'émission repasse le samedi matin.
Tout à fait. Demain, samedi, 12 avril, de 10h à 17h. Donc nous serons présents avec tous les auteurs invités du festival.
Sylvain ? Et vendredi, 11 avril, à 19h, à la librairie. Cette fois-ci, nous avons le grand plaisir de recevoir donc un photographe animalier et une personne qui travaille dans le parc national des Pyrénées en Ariège, donc Julien Canet, qui a fait un magnifique livre qui s'appelle « Lire sur le bouquetin des Pyrénées », puisque en fait son travail dans le parc national des Pyrénées, Ariège, est encore d'observer donc la réintroduction du bouquetin et son adaptation donc sa réintroduction dans la montagne pyrénéenne. Il a raconté tout cela en photo dans un livre et il vient venir nous en parler à la librairie à partir de 19h vendredi, donc c'est un événement gratuit. Et donc, il va projeter.
Vendredi, il faut préciser, Sylvain, c'est ce soir. Ce soir.
Voilà, vendredi 11 avril, donc ce soir pour les gens qui nous écoutent le vendredi. Et donc, Julien Canet va, dans un premier temps, nous présenter sous forme de projection des photos, parce qu'il il observe beaucoup la faune pyrénéenne, les bouquetins, mais le reste de la faune pyrénéenne. C'est un très beau photographe animalier. Et donc, il viendra nous présenter lors d'une projection donc dans la librairie à 19h, vendredi 11 avril. Et puis, ça sera suivi d'une discussion autour de son livre, plus particulièrement donc sur le bouquetin des Pyrénées, qui s'appelle « Lire », qui est un très beau livre de photos. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, il y aura une séance de dédicaces et d'échanges directement avec l'auteur Julien Canet. Donc, je vous rappelle, ce vendredi 11 avril à 19h, direction la librairie indépendante pour venir découvrir le travail de Julien Canet.
Alors, exceptionnellement, nous ne nous retrouvons pas la semaine prochaine. Je précise, on y reviendra dans 15 jours, que le samedi 26 avril a lieu la 27e édition de la fête de la librairie indépendante. Sera célébrée dans près de 700 librairies en France, partout en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Et parmi elles, 65 librairies se trouvent en Occitanie, dont la librairie indépendante à Saint-Gaudens.
Tout à fait. Et comme tous les ans, ça sera l'occasion pour les premières visites de recevoir un très beau cadeau qui est toujours réalisé par l'association Verbe et qui édite à cette occasion un livre toujours très très original, en lien bien évidemment avec la littérature, mais aussi c'est aussi le jour où on célèbre les droits d'auteur et la Saint-Jordi. Voilà, donc ça vient de tout ça et c'est une belle journée en général de fête à la librairie. Effectivement, ce sera le 26 avril.
Ça s'appelle Esprit, es-tu là ?
C'est ça.
Merci Christelle, je rappelle la date, samedi 26 avril, donc on aura l'occasion d'y revenir dans 15 jours. Merci.
Merci Eric.
Merci Sylvain.
Merci Eric.
Je rappelle que vous êtes tous les deux libraires à l'indépendante à Saint-Gaudens. Merci.